Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Bonjour, c'est un privilège d'être parmi vous ce matin et je voudrais partager avec vous un message qui s'intitule « Le prix d'une vie ». Peut-être c'est le moment de se demander, en fait, combien je vaux, moi. Alors, au début où je suis devenu chrétien, j'ai écrit une phrase qui est écrite sur chacune de mes Bibles. Chaque fois que j'ai une nouvelle Bible, j'écris ça sur la première page. « Christ est mort pour donner un grand prix à une vie sans valeur. Je vivrai une vie de valeur pour donner un grand prix à la mort de Jésus pour moi. » Et ça, c'est ma devise et ça accompagne toute ma vie. Mais ce matin, j'aimerais commencer par quelque chose de différent. Je voudrais savoir qui ici aimerait recevoir un billet de 20 dollars. Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez lever la main. Les deux premières personnes qui sont là sur l'estrade ici, vous allez recevoir un billet de 20 dollars. Il y en a qui ne me croient pas. Viens, Philippe. Oui, un homme, une dame, c'est parfait. Bienvenue. Alors, la seule chose que j'ai oublié de vous dire, hier soir, je suis allé chercher ces billets de 20 dollars. Ils sont tout neufs. Je les ai pris à la banque juste hier soir pour vous. Mais avant de vous les donner, bien sûr, je vais un petit peu les arranger comme ça. Est-ce que vous voulez encore le billet de 20 dollars? Oui, oui, t'es sûr. J'ai oublié de vous dire une chose. C'est que quand je parle parfois, si j'exagère un peu la prononciation des consonnes, le billet devient humide. Vous voulez toujours mon billet de 20 dollars? Vous êtes sûr? Vous savez, ce matin, Dan... S'il peut s'approcher, Dan ce matin a vraiment transpiré fort pour la louange ce matin. Et les aisselles d'un adorateur, c'est quand même un peu humide après un moment de louange. Qui aimerait? Est-ce que vous aimeriez encore le... C'est vrai? Non? Non? Restez là. Toujours. Vous restez là, c'est parfait. Alors écoutez, peut-être qu'on va... Est-ce que vous aimeriez encore le billet de 20 dollars?
Pas très propre.
Mais oui. Alors, cette dame vient de nous enseigner une chose. Je vous l'offre, bien sûr.
En vrai,
vous croyez que je suis un menteur, un prédicateur? Ment pas toujours.
Alléluia, gloire à Dieu.
Amen. Philippe, j'en avais un pour toi. J'en avais un pour toi, mais tu as renoncé à ton cadeau. Si tu le veux, viens en deuxième réunion. Cette dame nous a enseigné une chose. C'est que dans nos vies et dans votre vie, vous allez être froissé parfois. De temps en temps, des gens vont cracher sur votre réputation. Des gens vont vous rejeter, vont vous souiller, vont dire des choses différentes sur vous. Mais votre valeur ne changera jamais. Ce billet, il valait 20 dollars au début quand il était tout neuf. Même après avoir été froissé et souillé, il continue de valoir 20 dollars, et peut-être ce midi, cette dame aura un repas au restaurant avec ce billet de 20 dollars, qui a gardé sa même valeur que l'autre ici, qui est tout neuf. Et je crois que réellement, c'est ce qui se passe dans chacune de nos vies. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce qui lui arrive, mais du prix que Dieu lui a accordé. Toutes sortes de choses peuvent nous arriver, mais la valeur que nous avons dépend du prix que Dieu nous a accordé. C'est pourquoi la Bible nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. » La rédemption est un thème central dans l'Écriture, dans la Bible. La rédemption signifie payer un prix pour la libération d'une personne. Payer un prix pour la libération d'une personne. Et effectivement, on pourrait se demander, payer un prix pour une personne, mais que vaut une personne? Fernand Martin, qui est économiste et professeur à l'Université de Montréal, nous dit que le prix d'un humain peut varier pour les économistes entre 30 000 dollars à 15 millions de dollars pour un chef d'entreprise et père de famille. Pour lui, donc, la vie humaine a un prix. Et il dit, même si c'est moralement inacceptable, cela se fait quotidiennement dans l'élaboration des politiques de santé, de population et de transport. Régulièrement, nos économistes pensent à chaque être humain en fonction du prix. C'est incroyable. On considère que nous avons un prix variable. Alors, effectivement, on est dans un monde où tout peut s'acheter. On est dans un monde tellement intéressé par l'argent.
200 francs!
Alors, c'est en francs. 200 francs, 500 francs.
500!
700!
900 francs!
2000 francs!
2000 francs!
2000 francs! 2000 francs! 2000 francs! 2000 francs!
2100!
Ah, c'est vraiment scandaleux, hein, mais tout s'achète aujourd'hui. Tout dépend du prix qu'on y met, mais tout s'achète, et c'est vrai. À tel point, la vie de Jésus elle-même a été achetée par quelques pièces d'argent dans le temple. Pour 30 pièces, Judas est venu le chercher. Et Judas est venu chercher cet argent et a livré Jésus.
Aïe, à vous de là.
C'est réellement scandaleux, mais c'était le prix de la vie de Jésus. C'est le prix pour lequel il a été estimé. En janvier 2007, un jeune homme australien, Michael Holt, a vendu sa vie sur Internet. Il a dit, je veux vendre ma vie. Et quelqu'un est venu acheter sa vie aux enchères. Les enchères ont commencé avec 5 dollars. Elles ont fini avec 7500 dollars australiens. Cet homme a vendu sa vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'il est, toute sa personnalité, tous ses choix, plus rien ne lui appartient. Il s'est même amusé à vendre sa vie. Tout se vend aujourd'hui. Le prix d'une vie, c'est complètement fou, mais une vie vendue, c'est réellement une vie d'esclave.
This one is number 670455.
Alors l'UNICEF nous dit qu'il y a 200 millions d'enfants en esclavage dans le monde.
Yes, our kids are available in many
disponibles, différentes tailles, couleurs.
I hear just now that white
on est à court de blanc.
Thank you so much, everyone. It's such great fun to see that our kids are so popular with you. So, hurry up and reserve your own personal kit right.
Aidez-nous à combattre le trafic d'enfants. C'est un message de l'UNICEF. Parce que 200 millions d'enfants sont vendus en ce moment. Ce matin, quand on parle du prix d'une vie, quand on sourit sur cette personne qui dit 2000 francs, puis elle se jette et non, non, on préfère celle de 2100, on sourit sur le prix d'une vie. Mais continuellement, nous sommes dans un monde qui évalue notre vie et qui dévalorise la vie humaine. 200 millions de personnes en esclavage, 27 millions de femmes en esclavage dans le monde, dans les trafics humains, l'esclavage sexuel. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit nous saisir aujourd'hui, pour nous aussi. Et l'Évangile est un message qui vient parler directement de la valeur d'une vie humaine et du prix que Dieu accorde à la vie humaine. C'est pourquoi Jésus est venu et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté ». La rédemption, c'est la libération par une rançon. Et l'Évangile est une bonne nouvelle de libération. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà entendu la bonne nouvelle d'une libération. Nous avons entendu l'histoire de Maxime il n'y a pas longtemps. Mais combien Isabelle et moi, nous pouvions nous identifier aux parents de ce jeune homme qui était tenu captif pendant des mois ou presque une année dans les prisons d'Haïti. Combien nous pouvions nous identifier? Vous savez pourquoi? Il y a quelques années, un de nos enfants, on a 5 enfants qui ont vécu partout dans le monde, un de nos enfants, loin dans le monde, était pris dans une affaire dans laquelle il n'était pas réellement responsable, mais il s'est retrouvé, il voulait couvrir quelqu'un, et il s'est retrouvé enfermé. Et le jour où, en tant que papa et maman, vous entendez la voix de votre enfant au téléphone qui vous dit, à des milliers de kilomètres d'ici, je suis enfermé en prison. Au début, vous n'y croyez pas. Puis vous avez mal, vous avez le cœur qui s'effondre. Puis peu à peu, on rentre dans tous ces processus de contacter l'avocat, et contacter l'ambassade. Et puis, la nuit, le téléphone sonne, 4h du matin, vous avez des nouvelles, de temps en temps des bonnes, de temps en temps des mauvaises. C'est désespérant, vous perdez du poids très vite. Vous êtes malheureux, ça pèse. Et enfin arrive le jour du procès. Et le jour du procès, vous êtes en train... Normalement, il doit être libre. Mais le jour du procès, il y a quelque chose dedans de vous qui est là et qui guette. Quand le téléphone sonne, la première fois, dis non, le procès doit être remis. Il y a des détails qui manquent. Je dois rester un mois de plus. Ce jour-là, il y a quelque chose qui pèse dedans de vous. Ça fait mal dans le cœur de papa et de maman. Mais quand un mois plus tard, le procès a lieu, et qu'ils font monter vraiment la tension comme dans une mise en scène, et on a l'impression qu'on va lui mettre un an, puis finalement ils disent, non, non, mais on sait très bien qu'il n'est pas coupable, et il est libéré. Et au moment où de ce pays lointain du monde, le téléphone sonne à la maison, et l'avocat vous annonce, il est libéré, je peux vous dire que votre cœur de papa et de maman fond, qu'il y a une explosion de joie à cause de la libération de quelqu'un que vous aimez. Et Jésus nous dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour annoncer la libération de tous les captifs, parce qu'il y a toutes sortes de captifs. C'est pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle de libération. Au moment où tu entends le mot, il est libéré, elle est libérée, le Père céleste ressent cette même joie que nous avons ressentie au moment où notre fils était libéré. Si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre, réellement libre. Il y a une liberté et il y a une liberté réelle. Moi, en tant que Français, j'ai toujours aimé la liberté. Et chaque fois que j'entendais, quand j'étais plus jeune, faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux et où je veux, il y a quelque chose en moi qui faisait pétiller mes yeux. C'est ça la liberté. Et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, vous savez où j'ai fini ? En esclavage. Parce que ce genre de liberté conduit toujours en esclavage. Mais Jésus nous dit, si je vous affranchis, vous serez réellement libres. La liberté de recevoir Jésus-Christ dans nos vies et de faire toute sa volonté, vous serez réellement libres. Ce message de la rédemption de quelqu'un qui paye un grand prix pour nous libérer par une rançon. La rançon, quelqu'un va devoir payer. La Bible nous dit que nous avons été vendus et que nous devons être rachetés. À cause de vos fautes, vous avez été vendus. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Je suis libre de ne pas faire ce qui est obligé. Mais quand tu es comme ça, tu deviens esclave du péché. Tu l'as goûté, je l'ai goûté. Et ce matin, il y en a qui sont comme cela parmi nous. C'est ton rendez-vous avec celui qui rend réellement libre. Car moi, je suis charnel, vendu au péché. Et Dieu ne nous a pas rachetés à prix d'argent. Gratuitement, vous avez été vendus. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est pourquoi le chanteur de U2, Bono, écrit un texte que je trouve tellement fort pour notre génération. Et il nous dit, au cœur de toutes les religions, il y a l'idée du karma, c'est-à-dire tout ce qui sort de toi finit par te revenir. Tu récoltes ce que tu sèmes, œil pour œil, dent pour dent. Pour moi, il est clair que le karma est profondément enraciné au cœur de l'univers, nous dit Bono. J'en suis absolument certain. Et pourtant, surgit la notion de grâce qui vient chambouler cette notion de tu récolteras ce que tu as semé. La grâce défie la raison et la logique. L'amour vient interrompre les conséquences de tes actes. Ce qui, dans mon cas, nous dit-il, est une excellente nouvelle parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Est-ce que quelqu'un s'identifie ? J'aime l'idée de l'agneau sacrificiel. Le sens de la mort de Christ, c'est que le Christ s'est chargé des péchés du monde. De cette façon, ce que nous avons fait ne nous est pas renvoyé et notre nature de pécheur ne récolte pas une mort évidente. Quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est tellement puissant, le salut de Jésus-Christ. Il y a une loi dans cet univers, la loi du karma. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Mais la grâce vient annuler cette loi. Et cette grâce, c'est l'œuvre de Jésus-Christ et son sacrifice pour nous. C'est pourquoi l'Écriture nous donne trois mots pour le mot rédemption, le mot racheter. Le premier mot est le mot agorazo, qui signifie payer un grand prix. Payer un grand prix. L'image biblique, c'est que nous étions sur le marché des esclaves à cause du péché, et chaque fois que le péché nous faisait expérimenter une chose nouvelle, il nous dévaluait. Tu étais vendu à la drogue, Marie-Jeanne. Quand Marie-Jeanne t'a ramené au marché, tu valais moins qu'avant. Tu es pris dans l'alcool quand l'alcool te ramène au marché des esclaves. Tu vaux moins. Et tu vaux de moins en moins. Et chaque fois, le maître du marché des esclaves, l'accusateur, celui qui a une haine contre les humains, te dit à chaque fois, au plus profond de ta tête, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Et tu finis par croire que tu vaux strictement rien. Mais un jour, un roi de gloire vient. Et le marchand du marché des esclaves dit, j'en veux au moins 10 dollars, je sais que ça vaut pas grand chose, mais au moins 10 dollars, je veux faire une affaire. Et le roi dit, je l'achèterai pour 100 millions de dollars. Parce que pour moi, il vaut un grand prix. Pour moi, c'est une fille de valeur. Ta valeur ne dépend pas de tout ce qui t'est arrivé, mais du prix que Dieu a estimé que tu valais. Et Dieu a payé un grand prix pour nous. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu. Vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez plus esclaves. L'Écriture nous dit que Jésus a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de tout le peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Il est celui qui nous a rachetés. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Ce matin, nous avons chanté, je ne pourrais imaginer le prix qui a été payé pour moi. Et réellement, c'est le prix d'un agneau sacrifié, un agneau sans défaut. Il ressemble à un agneau ce jour-là, après avoir été frappé, un agneau immolé de cette façon-là. Dévalorisé par les humains pour valoriser toute l'humanité ensuite. Le trésor du ciel, la gloire des cieux, l'admiré des anges est descendu au milieu des humains pour qu'ils le bafouent, pour qu'ils l'insultent, pour qu'ils crachent sur lui, pour qu'ils le dévaluent. Le trésor du ciel, la gloire du Père était tellement dévalué par les humains, il est descendu si bas pour pouvoir valoriser toute l'humanité. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, c'est à ce prix-là que Dieu nous a rachetés. C'est pourquoi tu ne peux plus dire, je ne vaux rien, mais tu peux dire, je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. C'est le prix que Dieu a payé pour moi. Et le sang qui coule ici parle sur la terre, mieux que le sang du meurtre d'Abel, mieux que tout le sang des guerres. Et le sang de Jésus, nous dit Hébreux 12, 24, parle pour nous de bonnes choses dans les cieux. Je vaux le prix que Dieu a payé pour moi, le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Le cœur du christianisme est ici. Je vaux le prix que Dieu a payé, le sang de Jésus. Un grand prix payé pour moi. Le sang de Jésus parle, ne dit plus « je suis sans valeur ». Et à partir de ce moment-là, il attire tous les hommes vers lui. Quand j'aurai été élevé de la terre, nous dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Au moment où ce pain se lève, où le corps de Jésus se lève, c'est plus que le corps de Jésus. Lui, le trésor du ciel, Dieu fait homme, homme dévalué, descendu dans le séjour des morts, est élevé. Et quand il dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, toute l'humanité relevée en Jésus-Christ. C'est pourquoi non seulement il s'est relevé de cette croix, non seulement il s'est relevé ici, mais il s'est relevé aussi du séjour des morts. Et au moment où il s'est relevé du séjour des morts, il est monté dans le ciel, il a traversé les cieux, et il a dit, me voici Père, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et le Père a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il a reçu de Dieu le Père, le pouvoir et toute autorité. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous étions avec lui, la Bible nous dit, quand il est ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui, nous sommes élevés avec lui. Nous avons cette valeur, ce rang, cette position en Jésus-Christ. Aujourd'hui, un homme est dans le ciel pour nous. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est pourquoi ne dis plus jamais, je ne vaux rien, que plus personne à l'église Nouvelle Vie n'ait l'orgueil de dire, je ne vaux rien. Car Dieu a payé un grand prix et l'humilité, c'est d'accepter le prix que Dieu a déclaré que nous valons. C'est pourquoi confesse, je vaux le prix du sang de Jésus. Je vaux le prix du sang de Jésus-Christ. Au moment où il est élevé, il attire tous les hommes vers lui. Le deuxième mot du Nouveau Testament pour rédemption, c'est le mot ex agorazo. Agorazo veut dire payer un grand prix, ex agorazo, racheter et sortir du marché des esclaves. À partir de ce moment-là, je sors de la zone d'influence de mon ennemi. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je suis hors de la zone d'autorité de mon ennemi. Si vous avez vu ce film « Jamais sans ma fille », c'est ce qui arrive à cette femme qui retourne chercher sa fille en Iran. Et à la fin du film, c'est une histoire vraie, quand elle veut sortir et aller en Turquie, elle est juste tout près du poste de frontière et elle court et la police iranienne vient pour l'attraper, on veut la mettre en captivité de nouveau. Mais elle court et dès qu'elle a passé la barrière et qu'elle est en Turquie, elle peut se retourner. Ils ne peuvent plus rien faire contre elle. Pourquoi? Elle est sortie de leur zone d'autorité. Je suis ex agorazo. Je suis racheté et sorti de la zone d'autorité de mon ennemi. Il n'a plus de pouvoir. En Europe, nous entendons souvent des histoires sur le mur de Berlin. On a entendu ça souvent. Parce que sous le mur de Berlin, qui séparait cette ville en deux pendant des décennies, et on avait creusé un tunnel. Et des centaines de gens essayaient de passer sous ce tunnel. Certains se faisaient prendre, mais d'autres pouvaient passer. Et c'est la même scène qu'on a revue des dizaines et des centaines de fois. Quelqu'un court et la frontière est là. Et au moment où la personne passe, la police court derrière pour les garder en captivité. Mais dès qu'ils ont passé, ex agorazo, tu ne peux plus rien me faire. Je suis sorti de la zone d'autorité. C'est pourquoi ne laisse pas l'ennemi juste t'accuser et te faire croire toutes sortes de mensonges. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu es sorti de la zone du marché des esclaves. Le maître du marché des esclaves n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pourquoi tu peux parler avec assurance et lui dire, arrière de ma vie, je sais que tu as perdu ton pouvoir. Il y a une petite fille au Rwanda que nous avons connue, on a connu les parents adoptifs. Cette petite fille, au moment du génocide, était dans une zone qui était attaquée par les génocidaires. Il y avait un pont et de l'autre côté du pont, c'était une zone de sécurité pour elle, avec 5 enfants, ses 2 grands frères, ses petites sœurs. Ils ont couru et ils ont dit, si nous arrivons de l'autre côté, on sera en sécurité. Ils ont couru les 5 et le grand frère a dit, s'il y en a un qui tombe sous les balles, personne ne s'arrête. On court parce que les soldats étaient des 2 côtés du pont et ils se sont mis à courir. Elle est arrivée seule de l'autre côté, une zone de sécurité pour elle. Mais pendant si longtemps, même si elle avait quitté cette zone dangereuse, la période vécue sous la menace et sous l'esclavage continuait à rester au-dedans de ses pensées, de sa mentalité. C'est pourquoi ça nous conduit au troisième et dernier verbe qui parle de la rédemption dans la Bible. Lutro, ça veut dire libérer. Les chaînes sont tombées. En qui nous avons la rédemption, lutrosis, la délivrance. Les chaînes sont tombées. Non seulement cette petite fille avait besoin de quitter cette zone d'influence, mais pendant si longtemps, arrivée de l'autre côté, elle pensait toujours à cette scène. Papa et maman ont été tués devant moi et mes 4 frères et sœurs sont morts sur le pont. Ça a pris des mois avant qu'elle parle de nouveau, avant qu'elle oublie, avant que les chaînes tombent. Ce mot « lutro » est utilisé au moment où Lazare sort du séjour des morts et il était entouré de liens. Et Jésus dit, déliez-le. Il est sorti de la mort, mais il est encore lié. Déliez-le. Et la rédemption, le prix que Jésus a payé, nous permet de voir les chaînes qui vont tomber. Le Seigneur nous dit, je suis l'Éternel qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Et quelle joie dans les mois qui suivaient de voir cette petite fille qui quitte cette mentalité de victime et qui commence à parler, qui commence à avoir de l'assurance. La dernière fois que j'étais à Kigali, c'était son mariage. Quel bonheur de la voir chanter les louanges du Seigneur, de la voir aujourd'hui une libératrice pour tant d'autres, un témoignage incarné que Dieu nous délivre et fait tomber nos liens et qui nous fait marcher la tête levée parce qu'il est plus qu'un Dieu qui nous pardonne, il est un Dieu qui nous donne un grand prix, qui relève notre dignité et il nous fait marcher la tête levée. Je suis toujours étonné quand je dis « prions » dans toutes les églises du monde. Je vois tout le monde baisser la tête. Je dis, mais il prie le Dieu des fourmis. Mais mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut et il est grand et quiconque l'invoque, il relève notre tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête, dit le psaume 3. Je vous ai fait marcher la tête levée. J'ai brisé les liens de l'esclavage. C'est pourquoi peu à peu la mentalité d'esclave va disparaître. Les attitudes et les habitudes vont changer. C'est cette vie de rédemption. C'est pourquoi vous pouvez commencer à vivre une vie de grande valeur. C'est ici la photo de quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas, puisqu'il s'agit de celui qu'on aurait appelé Louis XVII en France. Le roi Louis XVI a été tué au moment de la Révolution, on a coupé sa tête, et Louis XVII, son petit-fils, était pris par les révolutionnaires, et chaque fois, on voulait lui enseigner à dire des grossièretés, à sacrer, à dire des gros mots, et lui répondait toujours, « Je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez, car je suis né pour être roi. » Sachant qui il était, il y a des choses auxquelles, volontairement, il ne touchait pas. Et moi, je crois à une marche de sanctification, à une sainteté, des personnes qui ne sont pas juste une sainteté de refus de vie. « Ah, il faut que je sois saint, il faut que je sois saint. » Mais le jour où tu sais qui tu es, tu dis directement de toi-même, ces choses-là, je ne le fais pas, je ne le touche pas, car je suis né pour être roi. Je suis né pour être roi. Et tu es un prince, tu es une princesse. La valeur que tu as est si grande. Sachant, nous dit Romains 6:6, sachant que vous avez été crucifié avec Christ, regardez-vous vous-même, votre regard sur vous est changé le jour où vous savez le prix que vous avez. Sachant combien vous valez, regardez-vous vous-même comme digne de marcher comme des princes et des princesses. Ça, c'est le prix de la vie que le Seigneur nous donne. À ce moment-là, il nous donne une place préférable à celle de fils et de filles, nous dit Ésaïe 56, verset 5. « Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Car l'humilité, ce n'est pas se dénigrer soi-même, c'est accepter le prix que Dieu nous donne. Je vaux le prix que Dieu a estimé que je valais. » Vous savez, j'ai un ami qui est un des copasteurs de notre église en France, qui est un expert pour la vente des tapis. Les tapis d'Iran, les tapis qui coûtent cher. Nous étions un jour dans une retraite de jeûne et prière. Il y avait un tapis, un petit morceau de tapis tellement vieux, tellement sale, que je l'ai pris. Et j'ai dit, oh, je vais jeter ça avant qu'on commence la prière. J'aime toujours prier dans un lieu propre. Alors je vais jeter ça. Il me dit, arrête, arrête. Ça vaut 3 000 $ ce tapis-là. Je regarde, ça, j'en donne pas 3 $. Même si je te donne 3 $ pour que tu ailles le jeter à ma place. Dis non, ne le jette pas, c'est 3 000 $. La différence entre lui et moi, je n'y connais rien. Il est un expert en tapis. Quand tu dis je ne vaux rien, la différence entre toi et Dieu, c'est que Dieu est l'expert en valeur humaine. Dieu est l'expert. Et tu dois décider qui a raison, Dieu ou moi. C'est pourquoi qu'il n'y ait plus jamais un seul orgueilleux, une seule orgueilleuse à l'église Nouvelle Vie qui nous dira « je ne vaux rien ». Parce que je vaux le prix que Dieu a estimé que je vaux. Et ce prix est si élevé, c'est le sang de Jésus-Christ. Sachant que nous avons été crucifiés avec lui, sachant le prix que nous valons, regardons-nous nous-mêmes comme vivants pour Dieu. À partir de ce moment-là, les pires circonstances de notre vie peuvent être rachetées. Cet homme est enfermé en prison. Tout le monde reçoit du courrier. Et lui reçoit un sac de nourriture envoyé par sa famille. Mais on lui prend tout. Semaine suivante, il reçoit un sac de nourriture, mais on lui prend tout. Et chaque fois, on lui donne seulement un sac poubelle. Ça, c'est juste pour toi. Et chaque fois, on lui donne seulement un sac poubelle. Ça, c'est juste pour toi. Sac poubelle, c'est juste pour toi. Un jour, quelque chose se passe à la prison. Sac poubelle, super épais, super résistant. Mes souffrances sont devenues mon salut. N'importe quelle circonstance douloureuse de notre vie peut être rachetée, parce que la spécialité du Seigneur, c'est de changer le mal en bien. Quand Joseph est envoyé en esclavage, son esclavage devient son salut. Toute douleur que tu as connue dans ta vie, même les pires choses, il est le champion de la rédemption. Il est le champion pour changer le mal en bien, la douleur en source de guérison. Il est le champion de nos guérisons. Et c'est pourquoi nous le célébrons, lui, Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tellement merveilleux et magnifique. Alors pour terminer, je voudrais nous inviter ce matin. Je veux me souvenir de ceux qui sont encore captifs. Car l'Église n'est pas qu'un hospice où les gens se plaignent de leurs souffrances et disent « si tu savais combien j'ai souffert dans ma vie passée ». Oui, mais nous sommes ici à Redemption Center, au centre de la rédemption. Celui qui nous redonne de la valeur, qui nous guérit, qui nous répare, qui nous donne avec toutes nos souffrances une expertise et une expérience pour aider d'autres. L'Église est un lieu d'envoi vers ceux qui sont encore en captivité. Et quand Ésaïe le prophète, dans chapitre 6, est en train d'adorer, au moment où il est en train d'adorer Dieu, le Seigneur lui dit, « Je voudrais partager avec toi ce qui vibre le plus dans mon cœur. » Ésaïe dit quoi ? « Regarde, regarde ces gens sans ma vie. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Ésaïe, dans son adoration, ne peut répondre que « Me voici, envoie-moi !» L'adoration, c'est d'accepter de partager ce qui fait vibrer le cœur du Seigneur. Et je voudrais ce matin t'aider peut-être à te dire « Mais qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ta vie ? Qu'est-ce que tu ne supportes pas ?» Moïse ne supportait pas de voir ses frères en esclavage. David ne supportait pas de voir l'armée de Dieu être insultée. Bob Pierce, de Vision Mondiale, le fondateur, ne supportait pas de voir des enfants tomber de faim, mourir de faim. Billy Graham ne supportait pas de voir des gens partir dans l'éternité sans le salut. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Les femmes battues, les enfants en esclavage. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Les prisonniers abandonnés, laissés tout seuls. Les jeunes captifs dans la drogue, la pauvreté, les hommes abattus dans la dépression, les potentiels des jeunes gens gâchés. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Ce que tu ne supportes pas fait probablement partie de ta mission sur terre. Ce qui gagne mon cœur avec Pasteur Claude, c'est d'une part sa passion pour Jésus, n'est-ce pas ? Sa passion pour aimer Jésus, mais aussi sa compassion quand il voit des cœurs souffrants. Il ne supporte pas de voir des enfants souffrir. C'est plus fort que lui. Je ne suis pas capable, comme vous dites ici. Mais Dieu l'a rendu capable d'amener une solution. Il n'en reste pas à « je ne suis pas capable de voir ça ». Parce que quand tu ne supportes pas quelque chose, ce que tu ne supportes pas, qui vibre dedans de toi, commence à être changé à une solution vibrante de salut pour ceux qui sont encore en captivité. Que nouvelle vie devienne une église envoyée, les esclaves libérés qui deviennent libérateurs. Retourne ce matin, je voudrais te dire, toi tu dis, oh, mais moi je viens d'une situation difficile, je viens, je vois mon ami John devant, je viens de l'enfer. Ben John, je voudrais te dire une chose, va en enfer, cherche quelqu'un et reviens avec. Va en enfer, cherche quelqu'un et reviens avec. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Et ça, c'est ce que Dieu nous demande, de saisir son cœur. Il y a des gens qui valent beaucoup, et les entrailles du Seigneur vibrent pour eux. Et je termine avec cet extrait vidéo. Je vais demander à Dan et aux musiciens de bien vouloir approcher. Il s'agit de l'histoire de John Newton, qui était un trafiquant d'esclaves. Il a trafiqué des milliers d'esclaves, hommes, femmes et enfants de l'Afrique. Il les vendait aux enchères. En 1748, une tempête violente a menacé de faire couler son navire. Il est tombé à genoux et il a crié à Dieu pour sa grâce. C'est cette nuit-là que John Newton a senti qu'il y avait un Dieu qui entend et répond aux prières. Même pour le pire des hommes, avec le temps, Newton s'est repenti et est devenu prédicateur et compositeur. En 1772, il a écrit un hymne appelé Faith with You and Expectation, que vous connaissez autrement sous le titre Amazing Grace. C'est devenu peut-être le chant le plus populaire de toute l'histoire. Un chant qui, par quelques notes, relève la tête des désespérés, adoucit le cœur des endurcis. Amazing Grace a été chanté des deux côtés lors de la guerre civile aux USA. Il a été utilisé comme un requiem au moment où les Indiens Cherokees se sont rendus, quand les protestataires sont venus pour réclamer leurs droits. Ce chant retentissait de même ce jour accablant du mois d'août où Martin Luther King a partagé son rêve. Amazing Grace a retenti quand Nelson Mandela est sorti de prison, ou quand le mur de Berlin s'est écroulé le 11 septembre. Amazing Grace était chantée à un monde qui pleurait. Amazing Grace a retenti quand les Saints ont marché au Superdome après l'ouragan Katrina, ravivant l'esprit d'une cité qui était brisée, car la grâce a le pouvoir de transformer le mal en bien et de changer un homme qui était autrefois trafiquant d'esclaves en combattant pour la liberté. Je voudrais vous inviter à vous lever maintenant et nous allons prier ensemble. Et nous allons dire au Seigneur, je n'oublierai jamais, je ne peux pas imaginer le prix que tu as payé. Nous allons répondre à Dieu ce matin. Merci pour la valeur que tu me donnes. Je vaux le prix du sang de Jésus. Je vais vivre une vie de valeur, car je suis une personne de valeur. Seigneur, envoie-moi chercher d'autres. S'il y a une de ces trois choses sur lesquelles vous aimeriez répondre à Dieu, alors que nous allons chanter ensemble, vous allez lever vos mains et dire au Seigneur, merci pour la valeur que tu me donnes. Je vaux le prix du sang de Jésus. C'est pourquoi je vais vivre une vie de valeur. Ou bien vous direz, Seigneur, envoie-moi chercher d'autres captifs. Chantons ensemble, je ne peux imaginer. Pour le grand prix que tu as payé pour moi. Si ce matin tu veux dire, Seigneur, merci pour le prix que je vaux, lève tes mains vers le Seigneur et tu décides, jamais plus je ne dirai que je n'ai pas de valeur, mais je vaux le prix du sang de Jésus. Et lève tes mains en reconnaissance. Oh, merci, je ne saurais. Seigneur, combien ce matin veulent dire, puisque je vaux un si grand prix, je vais vivre une vie de valeur pour mon Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses que je vais décider, je ne le fais plus, je ne le dis plus, je ne marche plus dans ces choses-là parce que je suis né pour être roi. Je ne fais plus ces choses, je laisse de côté ces choses-là, je ne le fais plus car je connais mon prix maintenant, je connais ma valeur. Si c'est votre cas, alors que nous allons reprendre, je ne saurai jamais le prix. Vous levez votre main vers le Seigneur en signe, j'abandonne les choses que je goûtais jusqu'ici. Je laisse cela, car je veux vivre une vie de valeur.
Je vivrai une vie de valeur pour donner un grand prix à la mort de Jésus pour moi. Je ne saurai jamais le prix.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.